Bonjour. C'est la première fois que tu viens?
Oui.
Tu habites Bruxelles?
Oui.
Quel est ton prénom?
Axel.
Axel. Sois le bienvenu, Axel. Je te bénisse. Tu connaissais l'adresse ou bien quelqu'un t'a amené ici?
Quelqu'un qui m'a amené ici.
Qui ça? Il est ici?
Enoch.
Enoch. Enoch. Qui habite en Anvers? Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça doit être Enoch Katen. Possible. Mais sois le bienvenu. Voilà. Bonsoir, fiston.
Bonsoir.
Dieu te bénisse. Ça va? Bien. Dieu bien-aimé, nous avons cet immense avantage ce soir de nous retrouver en ce lieu pour ce rassemblement. Un petit rassemblement, mais puisse-t-il nous être bénéfique au travers de ta parole. Nous avons chanté, nous avons prié. Nous sommes recueillis en adoration et nous croyons que, selon ta promesse, tu es au milieu de nous. Te remercions pour ce jour que tu as fait et pour toutes les bonnes choses que tu as mises en réserve pour nous. Et tu nous as manifesté ta bonté dans ce monde difficile en nous donnant le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous as manifesté aussi ta puissance de la résurrection par laquelle, ô Dieu, tes malades, nos malades sont guéris, par laquelle nos enchaînés sont délivrés, par laquelle, ô Dieu, nous obtenons la liberté. Nous te demandons de nous assister et surtout de nous pardonner nos péchés qui sont abondants, que ta grâce surabonde en notre faveur. Béni sois-tu et inspire-nous ta parole ce soir. Et aide-nous pour le petit moment que nous passerons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous allons lire, on va nous lever pour la lecture d'un verset. On lit dans 2 Pierre, chapitre 1er. Versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc sa gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que chacun de vous, en tant que croyant, vous savez, connaissez votre position vous, la corruption qui est dans le monde ne vous concerne pas. Votre nature n'aime pas cela. Votre nature ne suit pas ça. Dans le monde, vous êtes bizarre, mais de toute façon, mais devant Dieu, vous êtes son enfant. Un peu comme Job, il vivait dans une ville compliquée, dans un pays compliqué, mais Dieu était fier du comportement de Job au milieu de ses complications. N'est-ce pas? Dieu dit même à Satan dans Job, chapitre 1er, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » C'est un pays où le mal était de rigueur. C'est un pays où les gens ne craignaient pas Dieu. Mais Job, il faisait tâche à cela. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et la convoitise qu'il y a aujourd'hui dans le monde, si vous avez la nature de Dieu, vous fouillez cela. Ça ne vous intéresse pas. Vous n'y versez pas dans cette convoitise. Nous allons justement parler de cette participation. Un nat, c'est participant de la nature divine. Cette nature est faite de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Tout comme l'homme, au début, quand Dieu a fait l'homme, David, par l'inspiration, dit ceci dans le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il avait cette nature au début. Dieu est saint. C'est sa nature. La sainteté, c'est sa nature. Psaume 22, 4, verset 4. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il est saint. Et si nous sommes participants de la nature divine, nous ne sommes pas juste des spectateurs à contempler la magnificence de Dieu, mais nous devons participer, c'est-à-dire être partie de cela, faire partie de cela. Nous ne sommes pas juste des observateurs, mais cette plus précieuse promesse font de nous des petits dieux. Un croyant est un petit dieu. Un croyant peut prier, chasser des démons. Un croyant, quelqu'un qui a la foi comme un grain de sénévé, Jésus a dit, peut déplacer les montagnes. Nous devons être participant de sa nature. Et pour cela, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à cela. Tout ce que Dieu nous donne, ça contribue à ce qu'un jour, nous soyons comme lui. Par le baptême du Saint-Esprit, promis, c'est une très grande promesse, c'est une précieuse promesse, le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Par le baptême du Saint-Esprit promis, nous formons ensemble, tous ensemble, un corps. Chacun de nous étant membre du corps. Ça va? Si je suis le bras n'est pas là juste pour contempler combien l'autre partie est bien. Nos bras ne sont pas là juste pour contempler combien un organe fonctionne. C'est majestueux quand vous voyez le fonctionnement d'un organe, le cœur, le foie, parlons des principaux organes, les poumons, le pancréas, tous ces organes qui sont constitutifs de l'homme, n'est-ce pas? Ça fonctionne en harmonie et ça fonctionne d'une manière tellement bien que ça suscite l'admiration. Un homme ne peut pas fabriquer un homme avec ses organes. Je vous ai déjà dit ici combien une fois des médecins, des professeurs éminents ont voulu reconstituer le foie. Ils ont rempli toute une salle avec des tubes et des éprouvettes et des ballons et tout cela pour montrer toutes les fonctions que le foie fait. Or, le foie que Dieu a créé, c'est juste la grosseur d'un poing. Oui, mais il fait tout ça. Et si le foie ne fonctionne pas bien, c'est tout le corps qui est malade. L'estomac et tout cela, ça fonctionne dans une telle harmonie que c'est très beau. Ça montre combien Dieu est grand. Et même, non seulement le corps, même le reste de la création, lorsque vous contemplez le ciel, n'est-ce pas, la course régulière du soleil, les étoiles qui tiennent à leur place, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si on peut vous fabriquer des GPS, c'est parce que chaque astre, n'est-ce pas, a sa place bien déterminée. Et les GPS vous orientent selon les astres qui sont là, n'est-ce pas? Lorsque une boussole dont l'aiguille est toujours tournée vers le nord, le jour où la boussole est capoute, n'est-ce pas, le jour où elle ne fonctionne plus, quelqu'un qui s'y connaît, il peut s'orienter rien qu'en regardant les astres. Vous êtes en plein désert, vous n'avez pas de boussole. La nuit, vous pouvez voir, si vous savez lire dans les étoiles, vous savez lire l'écriture que Dieu a placée, parce que c'est toute une Bible. Les cieux, c'est toute une Bible. La terre également. Alors, si vous pouvez lire cela, si vous pourrez vous positionner. Exactement comme si vous lisez la Bible, vous savez vous positionner en tant que fils de Dieu. En quelle position vous êtes? Donc, chacun de nous, nous sommes chacun membre du corps de Christ. Et nous devons tous être en harmonie, marchant en harmonie. Chaque membre, chaque organe participant à ce corps. Il n'y a aucun organe qui soit spectateur. Tout ce qui est en nous participe. Ça va? Ça doit participer. Et c'est la même chose pour un chrétien dans le corps de Christ qui est l'Église. Il n'est pas là à contempler, à juste regarder, mais il doit participer. Il n'est pas là juste à s'exalter devant les miracles, mais il doit en faire également, étant lui-même un petit Dieu. Amen. chaque organe participant à ce corps, n'est-ce pas? Chaque organe, en tout cas, participe de manière harmonieuse dans ce corps. 1 Corinthiens 12, verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, le corps de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Vous voyez, le corps a besoin de l'ouïe, le corps a besoin de la vue, le corps a besoin du toucher. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Vous avez besoin de sentir. Ceux qui ont attrapé le Covid et qui ont perdu l'odorat, ils savent combien c'est inconfortable. C'est bizarre de ne plus rien sentir du tout. Hein? C'est bizarre de se mettre à table, de ne pas en sentir le parfum, l'odeur de la nourriture. C'est bizarre de se mettre à table et de ne rien voir. Hein? Il y en a qui disent, on commence d'abord par manger avec les yeux. Si ça ne plaît pas avec l'œil, ça je ne mange pas. Quand c'est beau, on mange. Et puis après, si ce n'est pas bon, c'est le goût qui va nous décevoir. Mais l'œil nous a invités à manger. Ouais. Si tout c'était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ça c'est verset 20. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Et si le corps, c'est Christ, nous savons tous que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. Donc tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Il était pleinement Dieu. Il était aussi pleinement homme. Il était pleinement Dieu. Vous avez, et il est pleinement Dieu. Il dit dans Apocalypse, « Je suis le commencement et la fin. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Rien ne manque. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en sa main. » C'est la nature divine. Ça, c'est Christ qui est le chef de toute domination. Ça veut dire la tête, le chef, et de toute autorité. Alors, lui étant la tête, le reste du corps, c'est toujours lui. C'est l'Église. Lui, il est la tête. Et les autres membres, c'est l'Église. Si la tête est divine, le reste du corps est divin également. Tout le reste a cette nature. Si un membre a un problème, maladie, infirmité ou quoi que ce soit, c'est tout le corps qui en souffre, qui en pâtit. Ce corps, nous le répétons, c'est le corps de Jésus-Christ. Et les promesses que Dieu a faites, notamment la grande promesse du don du Saint-Esprit, c'est de nature à nous donner justement cette nature divine. Parce que le Saint-Esprit, c'est justement l'Esprit qui était en Christ. Ça va ? Romains 8. Verset 9, pour vous, les Romains qui croient, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça va ? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chacun donnant naissance selon son espèce. Ça va ? Si le fils d'un homme est un homme, eh bien, le fils de Dieu est aussi un Dieu. Ça va ? Ah ouais. Non, ça va donner des monstres. Mais un fils de Dieu est un Dieu. Un fils du malin est un petit malin. Voilà. Jésus-Christ, c'est vrai, quand il est venu pour être semblable à nous, pour nous racheter, il a dû revêtir la même nature que nous avions après la chute, c'est-à-dire une nature humaine. Adam, avant la chute, avait la nature divine. Adam pouvait déplacer les arbres, pouvait déplacer les montagnes. Adam pouvait faire toutes ces choses et tous les animaux le respectaient. Alors, cette nature humaine, elle est conditionnée, justement, après la chute, il est caractéristique de certaines choses qui lui arrivent. On souffre dans ce corps. Tout à l'heure, j'ai failli appeler Frère Tombo, lui dire, frère, fais une réunion de prière, je n'arrivais pas à me tenir debout. Oui, j'avais mal, mais que Dieu soit loué, la douleur s'en est allée. Ça, c'est la nature humaine. L'homme, en vieillissant, il a souvent des bobos, parfois inexpliqués. Mais bon, ils sont là. Les douleurs, les souffrances, les liens, Jésus est venu dans sa nature humaine, il a dû passer par là. Il a connu toutes ces choses pour nous ressembler, n'est-ce pas? Afin que plus tard, par sa résurrection, il nous élève à sa nature, que nous prenions sa nature, la nature divine. Dans Ésaïe 53, connaissons cela. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a souffert, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, il a porté nos douleurs. Il a connu ça. C'est la nature humaine qui connaît ça. La nature divine ne connaît pas ces choses. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais verset 5, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous devons savoir que si lui, il a pris notre nature, c'est justement pour prendre sur lui nos maladies, pour prendre sur lui nos souffrances. Et celui qui a été appelé par lui, qui a reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses qui ont été faites, eh bien, celui-là, n'est-ce pas, est au-dessus de ses souffrances. Je ne dis pas qu'il ne souffre pas, mais il est au-dessus de cela. Des souffrances, des douleurs, et des choses semblables. Il est au-dessus de cela. Il marche sur ça. Il marche au-dessus des eaux. Quand vous ne doutez pas, vous avez la capacité de marcher sur l'eau. Pierre s'est enfoncé parce que à un moment donné, il a douté. Jésus lui a dit, tu t'es enfoncé parce que tu as douté. N'est-ce pas? Tant qu'il considérait qu'il était comme Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. N'est-ce pas? Dans Matthieu 14, après que tout lui soit contraire, verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Ça, c'est le lot d'un chacun sur la terre. être battu par les flots. Une vague qui se fracasse sur vous à gauche, une autre à droite, ce sont des choses qui arrivent. Mais vous devez toujours tenir le cap. Le cap, c'est d'aller de l'autre côté, d'arriver à bon port. Car le vent était contraire. La fois passée, nous avons vu ici, ne le laissez jamais partir. Accrochez-vous à lui. S'il vous dit, allez de l'autre côté, dites-lui, Seigneur, je veux bien y aller, mais avec toi. S'il dit, je vais prier, je vais d'abord aller prier sur la montagne, ben dites-lui, je viens prier avec toi. Et puis, nous pourrons y aller. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous avez ici dans une barque des hommes qui ont le privilège d'être des disciples de Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir, dans Luc 10, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ils avaient la capacité de marcher sur l'eau, exactement comme Christ. Mais quand les flots ont commencé à venir s'abattre sur la barque, ça leur a enlevé cette assurance qu'ils devaient avoir déjà depuis le début, que nous la chantons souvent sans le savoir, sans peut-être nous en rendre compte. Hein? Par exemple, quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. » Il dit « Il peut me conduire où il veut. Je peux traverser les sombres vallées. Je peux traverser même la vallée de l'ombre de la mort. Je suis rassuré par une chose, par sa houlette et son bâton. » David ne vivait pas en deçà de ses privilèges. Quand il devait garder le troupeau de son père, les brebis, qu'un ours venant, voyant David surveiller les brebis, certainement l'ours, vous savez quand l'ours se tient debout, il fait facilement 2 mètres. Et David, qui était un tout petit bout, hein, l'ours, il s'est dit de David, il n'allait en faire qu'une bouchée. Donc il pouvait prendre une des brebis qu'on lui a confiées, qu'il pouvait prendre une des brebis, et David n'allait pouvoir rien faire. Mais David avait ce privilège d'être un enfant de Dieu. Et comme nous avons lu dans le psaume 8, il savait qui était l'homme, comment Dieu avait fait l'homme. Dieu l'avait couronné de gloire. Il savait qui il était. Il ne permettait pas à l'ours, n'est-ce pas, de prendre une brebis de son père. C'était une fonction qui lui a été donnée, qui lui a été confiée, un boulot qui lui a été donné, de pouvoir veiller sur le troupeau de son père. Et généralement, c'est le boulot d'un pasteur également. C'est le travail d'un ancien de l'Évangile, d'Église. Son travail n'est pas seulement de venir se mettre devant vous et prêcher. Il doit veiller à ce qu'un ours ne vienne pas prendre une des brebis du Père. Et il n'a pas besoin qu'on lui donne un fusil. Les promesses de Dieu sont suffisantes. Et David prenait l'ours avec ses mains. Nous avons vu Samson également, lorsqu'on a essayé de l'enfermer dans une ville à Gaza, Samson, de ses mains, il a arraché le bas, la porte. Il paraît que c'était une porte d'airain. Et il l'a transporté jusqu'au-dessus de la montagne, au sommet de la montagne. Ces obstacles ne peuvent pas nous contrarier dans notre marche. Les obstacles ne sont pas une excuse. Si nous sommes enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous sommes appelés à passer. Êtes-vous sûr de ça? Vous devez être certain de votre position. Vous avez le commandement sur l'ours ou sur le lion. Un lion aussi a essayé une brebis de David. Mais David dit, je l'ai arraché. Goliath est venu, il a essayé. David dit, je gardais le troupeau de papa. Un lion et un ours sont venus de mes mains. Je n'avais pas d'armes. Mais ici, contre cet incirconcis, j'ai une arme. J'ai ma fronde. Et même, c'est un incirconcis. Il ne peut pas défier l'armée Dieu vivant. Quand vous faites partie de cette armée, vous devez savoir quand même que vous êtes dans une armée de vainqueurs. La guerre a été gagnée. Parfois, certaines batailles peuvent paraître comme des défaites. Vous ne pouvez pas être défait si vous faites partie de l'armée du Dieu vivant. Il n'y a pas de défaite. Même si ça semble être une défaite, non. La victoire de la guerre totale a déjà été acquise à Golgotha. Dans Hébreux chapitre 2, à lire au verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » La nature divine, c'est aussi être saint, n'est-ce pas? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Or lui, il est le Fils de Dieu. Et si vous êtes son frère, c'est que vous êtes des fils ou des filles de Dieu. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Et il nous a annoncé le nom. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Gloire à Dieu. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, pour les enfants, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a participé lui-même au sang et à la chair, donc à notre nature, n'est-ce pas? Et il nous a, une fois élevés, il nous a appelés frères, n'est-ce pas? Nous avons sa nature. Nous avons la nature divine. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous sommes participants de la nature divine par Jésus-Christ. Étant en lui, ça va? Si nous sommes en lui, nous avons sa nature, la nature de Christ. Hébreux 3, verset 14, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Ça veut dire nous faisons partie de Christ. Ce que Christ faisait, vous pouvez le faire aussi. Nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Je le répète bien souvent. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui vit en dessous de ses privilèges. Si Christ pouvait mobiliser des foules entières par les miracles qu'il faisait, l'Église devrait mobiliser aussi aujourd'hui des foules entières, normalement. Et non pas toujours vivre dans un autre âge, disant autrefois, cela s'est passé ainsi, il y a eu des camions remplis de béquilles et consorts, les camions en question n'existent peut-être plus aujourd'hui, parce que ça fait plus de 50 ans ou 60 ans, n'est-ce pas? Par contre, même les nouveaux camions aujourd'hui, nous pouvons toujours les remplir de béquilles. Les béquilles, ça existe encore. Participants de Christ. Nous sommes des messiettes, des petits dieux. Dieu avec petit D, pas avec grand D. Nous sommes des petits dieux. Participant de sa sainteté. Nous sommes également saints. Hébreux chapitre 12. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. S'il vous frappe, soyez heureux. Il vous frappe parce qu'il vous aime. Nous-mêmes également, hein, vous savez, si on colle une gifle à un enfant, c'est que c'est votre enfant. Vous n'allez pas oser d'aller donner une gifle à l'enfant du voisin si vous ne voulez pas de problème. OK? Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous, j'ai bien dit, on a bien lu, tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Dieu veut que nous soyons participants de sa sainteté. Soyez heureux ce soir. Vous êtes participants de la nature divine. Et tout ce qui contribue à cela, Dieu l'a donné. Toutes les promesses relatives à ça, Dieu les a faites et prononcées. Et toutes ces promesses, elles sont certaines. Elles sont véritables. Et en Christ, elles sont toutes oui, amen. Ça va? C'est là où on vous prendra pour un petit Dieu. Vous savez qui ça? Pour terminer, Paul, l'apôtre, lorsqu'ils ont été pris, je ne sais pas si je peux retrouver le passage, lorsqu'ils ont été pris dans la tempête, ils ont dérivé, c'est acte 27, je crois. Chapitre 28. Donc, ils viennent d'échapper à un naufrage, tellement la tempête a été forte, et ils échouent avec le bateau quelque part à Malte. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Donc, c'était des gens très accueillants. Et pourtant, on les appelle barbares. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu pour qu'ils se réchauffent. Hein, ils étaient tous trempés, n'est-ce pas, d'eau froide, qu'ils avaient allumée parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Ça craint le feu, les serpents. Par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, c'était une vipère très venimeuse, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice divine, donc, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Ils ont été sauvés d'un naufrage certain, alors qu'ils semblaient être en sécurité, voilà qu'un serpent venimeux vient le mordre et lui injecter son venin. Mais Paul, connaissant son statut, de sa nature divine, n'est-ce pas? Comme il a été dit dans Marc 15, nous boirons des breuvages mortels, il ne nous sera fait aucun mal, nous saisirons des serpents, il ne se passera rien. Paul n'a pas hurlé, n'a pas crié, il a juste secoué l'animal. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. C'est plutôt la vipère qui a passé un mauvais moment, puisque c'est elle qui est tombée dans le feu. Oui. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, chez les enfants de Dieu, vous attendrez longtemps. Amen. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Maintenant, ce n'est plus un meurtrier et dire que c'était un dieu. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. Amen. Nature divine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père céleste, te remercions de ces projets de bonheur que tu as établi sur nous, Père de nous, tes enfants. Ta nature à toi nous l'a donnée, ta sainteté nous couronnée de ta gloire et toutes ces choses, oh, tu as voulu que nous en soyons porteurs. Nous te remercions. Puissions-nous marcher d'une manière digne de ces choses que tu as faites pour nous. Et nous ne voulons pas marcher en étant des intimidés, des peureux, mais puissions-nous marcher avec foi. Et lorsque la tempête fera rage, que nous ayons puissions avoir ceci en nous, que si Christ a marché sur les eaux et qu'il a dit que les œuvres qu'il faisait, nous les ferions aussi, que nous de même, nous pouvons marcher sur les eaux. Puissions-nous marcher sur cela, marcher sur les serpents et sur les scorpions, que les problèmes ne nous accablent pas, que nous soyons maîtres de nos problèmes par ta grâce. Oh Dieu, mais pas de nous-mêmes, mais avec ton aide, parce que tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours. Oh Père, merci pour l'occasion que tu nous as donnée ce soir. Merci de ce que tu m'as permis de me tenir devant mes frères et sœurs ici présents. Que tu bénisses chacun. Maintenant, nous allons rentrer. Nous te prions de bénir les absents là où ils sont. Ceux qui sont malades, que tu t'en souviennes. Oh Dieu, toutes ces prières que nous t'adressons en faveur de nos bien-aimés qui ont besoin de ta guérison, que tu nous donnes cette foi qui obtient les promesses, que nous puissions nous saisir de cette guérison, oh, par les meurtrissures que nous avons obtenues par les meurtrissures de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te remettons notre chemin du retour, oh Dieu, sous ta protection, que tu nous gardes, que tu nous conduises, et si tu tardes à venir, puisses-tu être avec nous ce dimanche prochain, alors que nous nous réunirons encore au nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom béni que nous t'avons prié ce soir, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Paul et Abel, je vous confie Axel. Ça va? Ok. Comme ça, qu'ils ne se sentent pas trop seuls. Ce sont des jeunes un peu, la même génération. Voilà. Dieu vous bénisse.